15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Pendant une heure avec le docteur Jimmy Mohamed, notre médecin européen, nous tentons de vous éclairer sur les sujets de santé qui vous préoccupent et justement, comme tous les jours, il est à mes côtés, à bonne distance, dans ce studio, le docteur Jimmy. Bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Docteur Jimmy, je vous ai baptisé
aujourd'hui. Mais ça me va
très bien. On change. Allez, au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à une maladie psychiatrique, la schizophrénie. Quelles sont les causes de cette pathologie? Quels sont les symptômes pour la diagnostiquer? Et surtout, quelle est aujourd'hui la prise en charge proposée à ces malades, qui ont souvent moins de 25 ans au début de la maladie? Des patients qui, contrairement à ce que l'on croit, peuvent avoir une vie normale. Pour en parler, nous recevrons le docteur Charles Lydy. Il est psychiatre au sein des hôpitaux universitaires Henri Mondor et membre de la Fondation Fondamentale. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, nous nous intéresserons à un sujet un peu tabou, la fissure anale. Je ne vais pas vous faire un dessin, vous avez compris où ça se passe, mais alors, comment se traite ce type de plaie qui est finalement assez fréquente? Nous ferons évidemment le point. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue aujourd'hui. Elle nous parlera de masturbation.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première, c'est celle de Brian.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Voilà, petite question, je me suis fait tatouer il y a 3 semaines et il y a toujours une croûte, ça me gratte encore. Est-ce que c'est normal? Et est-ce que je peux mettre quelque chose dessus? Voilà, merci.
Alors Jimmy, on va répondre dans un instant à cette question précisément, mais d'abord peut-être un point, puisque parfois on était, il y a ces envies-là qui arrivent, sur les risques des tatouages. On est dans une émission de santé, donc juste rappelez-nous peut-être les règles absolues en matière de tatouage.
Oui, réfléchissez bien avant de vous tatouer un dauphin ou n'importe quoi, parce que vous pouvez le regretter. C'est un acte déjà qui est souvent parfois fait sur l'impulsion, mais c'est un acte qui est sur le long terme pour quasiment toute la vie. Donc il y a des risques, et surtout des risques infectieux. Évidemment qu'il faut choisir un lieu et un matériel adapté, donc vous évitez les tatoueurs qui peuvent travailler au domicile, ni ceux qui sont installés à l'arrière d'un camion, sur des marchés.
Ouais,
privilégiez donc un professionnel qui est installé dans un salon, qui est déclaré avec une réglementation et des règles d'hygiène qui vont être respectées. Et en termes d'hygiène, évidemment qu'il faut que le matériel soit stérile et des aiguilles jetables, donc à usage unique. Et le tatoueur doit porter des gants et qui plus est en période de Covid, un masque, c'est de bon ton.
Très bien, merci Jimmy. Alors pour répondre à la question de Brian, plus précisément sur les suites après un tatouage, nous avons interrogé la dermatologue Marie Jourdan.
De toute façon, après avoir fait un tatouage, il faut comprendre que le tatouage en lui-même est une effraction cutanée. Le tatoueur, il a utilisé une aiguille, il a plusieurs fois piqué la peau, donc ça va provoquer des suites comme un bobo en fait, une irritation. Donc les croûtes, c'est tout à fait normal après avoir fait un tatouage. Il faut donc absolument nettoyer la peau et ça suffit, hein, probablement, il n'y a pas besoin d'utiliser des désinfectants à outrance. Il faut quand même vérifier qu'il n'y a pas d'infection. Les croûtes, c'est normal, sauf si elles sont jaunes et purulentes, auquel cas ça veut dire qu'un staphylocoque s'est glissé dans les petites brèches. Des petits boutons qui apparaissent au moment des soins, il faut se poser la question d'une allergie à la crème cicatrisante, justement. C'est très rare, mais ça peut arriver. On peut aussi se poser la question d'une réaction à l'encre. Alors, il faut savoir que l'encre, c'est un corps étranger, donc c'est normal que le corps réagisse par des démangeaisons juste après un tatouage, mais on peut avoir une allergie à l'encre, mais en général, ces réactions immunitaires à l'encre se surviennent beaucoup plus tard. C'est vraiment minimum un mois, mais ça peut aller jusqu'à 40 ans après avoir fait un tatouage.
Voilà donc les précisions du docteur Jourdan au micro de Benjamin Lévesque. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Jimmy, cette fois, c'est plus une question pour vous, je dirais. C'est celle de Jade qui nous a appelé de Vitry-sur-Seine.
Oui, bonjour Jimmy, bonjour Mélanie. J'avais une petite question. En fait, mon pédiatre m'a dit l'autre jour que mon enfant avait un souffle au cœur. Apparemment, il n'est pas du tout inquiet, par contre, moi, complètement. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Est-ce que ça va disparaître? Voilà, merci beaucoup.
Bon Jimmy, on comprend tout à fait cette jeune maman, parce qu'on nous dit un souffle au cœur, c'est pas grave, mais on parle quand même de cœur. Le souffle au cœur, d'abord on va vraiment revenir sur ce que c'est un bruit au départ que vous, médecin, vous entendez à l'auscultation.
Oui, avec un stéthoscope, les bruits du cœur, on les entend, il y a deux bruits, un bruit numéro 1 et un bruit numéro 2, ça fait tudun, comme un peu le bruit de Netflix, vous avez la série, vous avez le tudun de Netflix, c'est un peu ça qu'on entend de façon répétée, et entre ces deux bruits, on peut entendre un souffle, c'est-à-dire c'est une turbulence, c'est le flux sanguin qui passe de façon anormale et ça donne un psh, psh, voilà, c'est très radiophonique ce que je vous fais, mais au moins on l'entend et c'est ce qui définit le souffle qui est souvent plutôt bénin.
Alors je crois qu'il y a quand même deux types de souffle cardiaque, l'un est plutôt anodin, je parle toujours chez l'enfant, hein, et l'autre tout de même à prendre avec précaution.
Alors il faut distinguer plusieurs choses, déjà avant 3 mois, le risque de découvrir un souffle est plus important et un souffle qui peut être en rapport avec une cardiopathie congénitale, donc une malformation cardiaque, ce risque il est entre 8 et 10 pour 1000 enfants. Donc il est modéré, mais c'est le plus important. Et puis d'accord, après 3 mois et après 3 ans, ce risque diminue franchement. Et dans ces cas-là, on parle de souffle fonctionnel, donc ils ne sont pas méchants. Et ils sont organiques, c'est-à-dire qu'ils vont révéler une pathologie cardiaque dans 1 cas sur 1000.
Oui,
et puis il y a des situations où on peut entendre un souffle de façon normale. Lorsqu'un enfant a de la fièvre, on entend un souffle. Donc il n'est pas utile de s'inquiéter, on recontrôle ça. Chez l'enfant un peu plus grand, on peut entendre un souffle qui va disparaître en position debout. Et donc c'est un souffle fonctionnel. Et enfin, si vous n'avez aucun signe d'appel, l'enfant qui ne fait pas de syncope, pas de malaise, pas d'essoufflement, pas d'antécédent cardiaque dans la famille, pas de malformation qui nous ferait penser à un Marfan ou à d'autres pathologies, eh bien, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Au moindre doute, on fait une petite écho et tout rentre dans l'ordre.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Jade, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Charles Laidy. Bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Avec plaisir. Vous êtes psychiatre au sein des hôpitaux universitaires Henri Mondor et membre de la Fondation Fondamentale. Alors aujourd'hui, avec vous, on va faire un focus sur la schizophrénie. D'abord, est-ce que c'est une maladie qu'on peut définir, on va dire simplement c'est quoi la schizophrénie? Est-ce que c'est une maladie du cerveau, on peut dire ça?
Oui, tout à fait. On peut dire que c'est une maladie du cerveau. D'abord, ce qui est important, c'est qu'il y a plusieurs formes différentes de schizophrénie. Mais globalement, on dit que la schizophrénie, elle est caractérisée par un délire ou des hallucinations, avec souvent une perte de contact avec la réalité, une désorganisation de la pensée, c'est-à-dire des difficultés pour structurer un petit peu sa pensée, aussi son discours, et enfin des symptômes négatifs, une tendance au retrait social.
Il se passe quoi dans le cerveau de ces patients-là? Parce qu'on dit que c'est une maladie du cerveau. Je ne sais pas, il y a des neurones qui, je sais pas, de l'électricité pas comme il faut. Qu'est-ce qui se passe physiologiquement? On le sait ou pas encore, justement?
On ne le sait pas encore exactement. Mmh. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a certainement quelque chose qui est en lien avec un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine, qui serait présent en trop grande quantité dans le cerveau et notamment dans une zone qu'on appelle le cortex préfrontal, qui est situé à l'avant de la tête. Et donc, ce serait finalement...
Qui est une zone de l'organisation de la pensée aussi. Et
exactement.
Tout ça, hein, c'est ça,
ouais. Exactement. Mmh. Et donc, l'hypothèse, ce serait que... trop de dopamine dans cette région du cerveau pourrait conduire aux symptômes de la schizophrénie. Et d'ailleurs, les traitements, souvent, c'est des traitements qui permettent de diminuer la dopamine.
L'excitation à cette zone-là, parce
exactement.
Que c'est ça, c'est un cerveau peut-être un peu trop excité. Jimmy, à vous.
Est-ce qu'on a identifié des facteurs de risque de la maladie? Est-ce que, par exemple, un terrain familial peut faire qu'on a plus de risques, nous aussi, de l'avoir?
Alors, tout à fait. Il y a un terrain familial qui a été identifié, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est une maladie génétique. C'est-à-dire que si vous avez des personnes qui souffrent de schizophrénie dans votre famille, ça ne veut pas nécessairement dire que vous risquez vous-même de souffrir de cette pathologie, mais ça augmente le risque par rapport à la population générale.
Mmh. Dans les causes identifiées, je sais qu'on a déjà parlé du stress et du cannabis même. Mmh. C'est vraiment des facteurs de risque de cette maladie?
Tout à fait. Alors, on pense que, évidemment, le stress et le cannabis, à eux seuls, ne peuvent pas déclencher la schizophrénie. Mais sur un terrain à risque, notamment, par exemple, un terrain génétique à risque, le cannabis, par exemple, peut précipiter l'arrivée de la maladie et aggraver aussi et faire que le pronostic, finalement, de la maladie devient moins bon.
Ce qui veut donc dire que si jamais dans la famille on a des gens qui souffrent de schizophrénie, si on a des enfants, eh bien il faut leur dire, les
encore
sensibiliser
plus
encore plus,
autres, ouais.
Pas de cannabis et peut-être essayer d'avoir une vie un peu plus saine pour limiter le risque. Alors c'est pas une science exacte, c'est pas du 100%, mais quand même chez ces personnes-là, vraiment on leur dit encore plus que chez les autres, pas de toxique et une vie plutôt cool.
Ça c'est un point qui est effectivement très très important, c'est que quand il y a un terrain familial pour la schizophrénie, c'est extrêmement important que les membres de la famille ne consomment pas de cannabis, parce que vraiment le cannabis, il y a des vulnérabilités individuelles qui peuvent être très différentes. Chez une personne donnée, peut consommer du cannabis sans aucun effet secondaire, mais dans d'autres cas, ça peut être vraiment dramatique.
Et un facteur déclenchant. Quelle est la fréquence de cette maladie dans la population? On sait combien il y a de patients touchés en France, par exemple?
Alors, c'est une maladie qui touche à peu près entre 0,8 et 1% de la population française.
Donc, ce n'est pas si énorme que ça, mais ça fait quand même un nombre de patients...
Ça reste une maladie quand même très fréquente. Hein. 1% ouais. de la population française, ça fait à peu près 600 000 personnes, donc c'est à peu près autant... qu'il y a de naissance par an.
De ceux qui
ne
sont pas diagnostiqués, mais ça fait.
Exactement. Donc c'est quand même plutôt une maladie fréquente.
Est-ce que c'est une maladie qui touche que les pays, on va dire, industrialisés? Parce que là, on a parlé de toxiques, ou est-ce que, je ne sais pas, dans des pays moins développés, peut-être qu'il n'y en a pas, je ne sais pas.
Alors, c'est une très bonne question. En fait, la schizophrénie, elle existe dans tous les pays, dans toutes les cultures. C'est pas du tout une maladie occidentale. Si vous allez, par exemple, même en Afrique, dans tous les pays, il y a des cas de schizophrénie qui ont été décrits. Par contre, souvent, ils ne sont pas diagnostiqués, ils ne sont pas traités.
Ils sont rejetés.
Et ils sont souvent rejetés, effectivement, aussi. Mais donc, vraiment, c'est une maladie qui a une incidence qui est à peu près similaire dans tous les pays.
Mmh. Jimmy.
Et puis, parfois, dans certains pays, on parle de sorcellerie, de possession, alors que c'est une maladie psychiatrique qui n'a pas été diagnostiquée. Quel est l'âge moyen de découverte de la schizophrénie? Puisque j'ai l'impression que les enfants sont assez épargnés. Peut-être que je me trompe, d'ailleurs.
Alors, en général, on diagnostique la schizophrénie entre 17 et 25 ans. La schizophrénie débute classiquement chez l'adulte jeune. Il y a des formes de ce qu'on appelle de schizophrénie à début précoce qui débutent même pendant l'adolescence, mais elles sont beaucoup plus rares. Donc classiquement, on fait le diagnostic
17-25,
entre,
quoi, 17-25 à peu près. D'accord. Il y a plus d'hommes, de femmes ou il n'y a pas de différence?
Il pourrait y avoir une légère augmentation du nombre d'hommes par rapport au nombre de femmes, mais ce n'est pas quelque chose qui est très tranché. Et c'est peut-être aussi parce que les femmes, finalement, sont parfois moins diagnostiquées que les hommes.
Vous disiez que donc, c'est plutôt une maladie qui survient, en tout cas qui apparaît entre 17 et 25 ans. Ça veut dire donc qu'il n'y a pas d'enfants schizophrènes. Mais est-ce que dans l'enfance, peut-être, ces enfants qui risquent de devenir schizophrènes, on voit déjà des choses? Est-ce que, je ne sais pas, un psychiatre comme vous peut dire « Ouh, cet enfant-là, il faut peut-être surveiller parce qu'il y a tel ou tel symptôme qui peut faire penser que demain, enfin, dans quelques années, il développera une schizophrénie. »
Il peut y avoir effectivement des symptômes qu'on appelle les prodromes qui peuvent survenir avant l'apparition de la maladie.
Prodrome, ça veut dire pré-symptômes, enfin, je
Exactement,
sais pas,
ouais. C'est des symptômes qui sont précurseurs de la maladie. Classiquement, ça peut être de la dépression, de l'anxiété, parfois aussi des signes un petit peu atténués de schizophrénie.
C'est des enfants de quel âge, par exemple? Vous avez déjà vu ça, vous?
On peut le voir, par exemple, chez des enfants de 15 ans ou même un peu avant. Surtout aussi quand il y a un terrain familial, c'est un ensemble de facteurs qui nous font suspecter une transition probable vers la schizophrénie.
Oui, pas de panique. Donc si jamais on a un enfant qui est un peu stressé, un peu déprimé, ça ne veut pas dire qu'il va développer une schizophrénie. Ça veut dire peut-être qu'il a besoin d'aide. Il a le droit d'être harcelé à l'école, d'avoir d'autres problèmes, éventuellement le faire consulter. Mais bon, ça ne va pas systématiquement
bien
déboucher.
Bien sûr, bien sûr. C'est des signes en fait très peu spécifiques, ce qui veut dire que la dépression, l'anxiété, c'est des symptômes qui sont très communs dans la population générale. Et bien évidemment, ça ne veut pas du tout dire que tous les enfants qui vont présenter ce type de symptômes seront amenés à développer une schizophrénie par la suite.
Pour bien comprendre ce qu'est cette maladie psychiatrique, un patient qui est atteint de schizophrénie, avant qu'on ne le traite, on va dire, est-ce que c'est une maladie où on va avoir des symptômes tout le temps? Je parle même là sans traitement, au début, admettons. Ou est-ce que c'est quelque chose qui évolue par crise et qui va s'aggraver au fur et à mesure des mois, des années?
Là encore, il y a des formes...
Est-ce qu'on reste délirant, par exemple? On a beaucoup tous les hallucinations en tête, les délires. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a jamais conscience de quoi que ce soit? Ou ce sont des gens qui, parfois, ont des moments où, effectivement, ils sont tout à fait normaux?
Il y a différentes formes. Ce qui est sûr, c'est que les traitements permettent d'atténuer significativement les délires ou les hallucinations.
Mais s'ils ne prennent pas de traitement?
Mais s'ils ne prennent pas de traitement, en général, les patients sont délirants ou peuvent être délirants de façon continue et prolongée, malheureusement.
Oui. C'est peut-être parfois certains SDF qu'on voit crier dans la rue, qui sont des patients psychiatriques non pris en charge, non traités. On les voit délirer, ils ont dit « Oh, bah, il a dû boire de l'alcool », mais il doit y avoir des malades psychiatriques comme ça qu'on oublie et qu'on laisse de côté.
Ça, c'est un très grand enjeu. Il y a beaucoup, malheureusement, de SDF qui souffrent de schizophrénie, qui ont échappé aux soins. On souffre aussi parfois du manque de place d'hospitalisation. Et effectivement, je pense qu'on a tous vu, en tout cas à Paris, des personnes qui tiennent des propos qui sont incohérents. Et je pense qu'il y en a une part significative qui souffre de schizophrénie.
Jimmy.
Oui, d'ailleurs, la psychiatrie, c'est le parent pauvre de la médecine. On met pas assez de moyens. Mais on parle de schizophrénie, mais il n'y a pas, vous l'avez dit, il n'y a pas une schizophrénie, mais des schizophrénies. Et donc, on a tous cette image caricaturale de la personne agressive qui a des hallucinations, qui va vouloir tuer tout le monde. Mais on a aussi des formes plutôt légères avec des patients qui ont une qualité de vie plutôt normale et qui semblent être entre guillemets comme les autres.
Tout à fait. Il y a des patients qui, une fois qu'on a trouvé le bon traitement, et parfois ça c'est quelque chose qui peut prendre du temps, mais qui peuvent être stabilisés, qui peuvent mener une vie de famille. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important.
Il y en a qui n'ont pas d'hallucinations, par exemple?
Il y en a qui n'ont quasiment pas d'hallucinations, effectivement. Il y a vraiment des formes qui sont extrêmement différentes.
Hein. La mégalomanie, c'est vraiment des symptômes parfois divers, hein, c'est ça?
Oui, alors la mégalomanie, c'est, bon, classiquement, c'est pas toujours un symptôme classique de la schizophrénie, mais ça peut arriver d'avoir des patients qui ont une perte de contact avec la réalité, qui leur font ressentir, par exemple, qui sont persécutés ou qui font partie d'une organisation religieuse ou des choses comme ça.
Alors, docteur Laïdi, on ne fait que commencer cet entretien. Vous restez bien sûr avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons continuer ce point sur la schizophrénie et nous allons passer justement au diagnostic. Quels sont les signes qui doivent faire penser qu'on est ou que son enfant, son adolescent est peut-être atteint par cette maladie? Quand faut-il consulter? Qui faut-il consulter? Vous verrez qu'il est très important de prendre en charge cette pathologie le plus tôt possible. On va tout vous expliquer en détail. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, c'est vous, docteur Charles Lydie. Vous êtes psychiatre au sein des hôpitaux universitaires Henri Mondor et membre de la Fondation Fondamentale. Alors aujourd'hui, avec vous, on fait un point sur cette maladie psychiatrique qu'est la schizophrénie. On va passer au diagnostic à présent. Pourquoi d'ailleurs, petit aparté peut-être, pour commencer, il y a beaucoup de maladies psychiatriques, pas que la schizophrénie, hein, les troubles bipolaires, on en avait parlé dans cette émission, mais qui font finalement leur apparition aux alentours de 25 ans, peut-être un peu avant. Qu'est-ce qui se passe à cet âge-là? J'en sais rien, dans les neurones, dans le cerveau, qui fait que c'est là que sortent souvent ces maladies psychiatriques?
Alors effectivement, en fait, on pense que c'est lié au fait que c'est le moment où le cerveau finit de se développer. Et donc, c'est des maladies qui touchent la fin du développement cérébral. Et c'est pour ça que ces maladies se déclenchent à ce moment-là et pas avant.
D'accord. Jimmy?
Lorsque on parle de schizophrénie, on est d'accord que ça peut démarrer avec un épisode brutal, un épisode un peu psychotique, ou ça peut aussi parfois être un peu insidieux, c'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Donc on a deux modes d'entrée dans la maladie?
Tout à fait. Il peut y avoir sur parfois même une durée de un an, une intensification progressive des symptômes, ou parfois vraiment un début extrêmement brutal qui peut d'ailleurs souvent être déclenché par la consommation de drogue et de cannabis notamment.
Et ça va se passer comment, par exemple, ce premier épisode inaugural? Alors sans évidemment, il y a le secret médical, mais je ne sais pas, un des derniers patients que vous ayez diagnostiqué sur cette maladie, il s'est passé quoi, qu'on comprenne bien, pour cette première crise inaugurale, par exemple? Ça peut se manifester comment?
Souvent, ça se manifeste avec ce qu'on appelle une perte de contact avec la réalité, c'est-à-dire que les patients ont le sentiment d'entendre des voix. C'est quelque chose déjà qui est extrêmement angoissant à vivre pour les gens. Hein. Mmh. C'est des expériences qui sont...
Qu'est-ce qu'il entendait, le dernier patient que vous avez diagnostiqué?
Par exemple, des patients peuvent entendre des voix qui commandent leur acte ou leur pensée. Parfois même, ils entendent des voix qui parlent entre elles de lui. Souvent, ça peut être aussi des insultes ou des choses assez négatives. Et donc, ça met en fait les patients dans un état de stress constant et de grande détresse psychologique.
Mmh. Et cet épisode psychotique dont on vient de parler, s'il a lieu, donc si c'est vraiment cette façon brutale, hein, parce que ça, vous avez dit, ça peut être aussi parfois un peu plus insidieux, je crois qu'il est vraiment très important de le considérer, de consulter derrière, parce qu'on est d'accord, le pronostic finalement de cette maladie, quand il est dépisté tôt, il dépend vraiment de cette prise en charge très précoce. C'est-à-dire qu'un enfant de 17 ans qui va dire à ses parents, oulala, hier j'ai déliré, enfin, je ne sais pas, hein, je n'ai pas d'exemple en tête, mais les parents, il faut vraiment qu'ils amènent cet enfant consulter.
Effectivement, ça c'est vraiment un point clé. On sait qu'un des facteurs pronostiques de la maladie, c'est la durée de la maladie non traitée. Plus il y a une durée de non-traitement qui est longue, moins le pronostic est bon, moins les traitements seront efficaces. Et donc, l'essentiel, c'est d'en parler immédiatement à son médecin généraliste.
Parce que des ados qui font des crises, il y en a plein. Parfois, ils peuvent péter des câbles, enfin, je veux dire, ou délirer. On se dit, bon, il est jeune, ça va lui passer. Mais non, hein, il faut vraiment...
Oui, ce qui est vraiment significatif, c'est la perte de contact avec la réalité, le délire. C'est des choses qu'on ne voit pas quand même classiquement chez la majorité des adolescents. Donc, si on repère ces symptômes, il faut absolument aller vers les soins.
Jimmy?
C'est donc dire que plus tôt on traite la maladie, meilleur est le pronostic. Mais concrètement, quel est le risque de laisser une schizophrénie évoluer telle qu'elle? Parce que vous avez dit, parfois le patient entend des voix, mais ces voix peuvent lui dire aussi de se faire du mal. Il y a un risque de suicide aussi qui est important, ou parfois même d'agression chez les autres, et qui est souvent un peu surestimé par des faits divers un peu fantastiques. On a l'impression que le schizophrène est un tueur en série en puissance, alors que ça reste heureusement assez marginal.
Effectivement, c'est un point qui est très important, c'est que la schizophrénie, c'est une maladie qui n'est pas associée à une dangerosité, où c'est vraiment une minorité de patients qui vont avoir des troubles du comportement qui peuvent les amener parfois à être agressifs envers autrui. Mais effectivement, on voit parfois des familles qui n'amènent pas leurs proches à consulter pendant plusieurs années. Et ensuite, ils sont hospitalisés, mais trop tard. Et on est souvent confronté à une résistance au traitement et à des situations qui sont souvent assez difficiles.
Alors, on a parlé pas mal là, donc des délires, de la perte de contact avec la réalité. Vous parliez aussi au début de d'autres symptômes, parce que c'est pas que ça la schizophrénie, vous parliez aussi d'un appauvrissement affectif, social. C'est quoi ça comme symptôme?
Alors ça, c'est des symptômes qui sont présents souvent dès le début de la maladie et qui s'aggravent parfois avec l'évolution.
C'est un enfant qui s'isole, l'évolution. Un ado qui reste tout seul.
Exactement, ouais. C'est une tendance à l'isolement, une perte un peu d'intérêt pour son environnement et les gens vont avoir du mal à nouer des relations sociales.
C'est classique à l'adolescence pour le coup comme symptôme.
Ouais. Exactement. Ouais. Exactement, mais quand c'est associé, et encore une fois, ce n'est pas un symptôme qui est spécifique, mais quand c'est associé aux autres symptômes, notamment de perte de contact avec la réalité, c'est ce genre de choses qui nous font suspecter le diagnostic de schizophrénie.
Il y a des symptômes négatifs aussi, c'est quoi ça?
C'est ça justement, les symptômes négatifs, c'est la tendance au retrait et au repli sur soi.
D'accord. Jimmy?
Comment est-ce que vous faites le diagnostic, puisque finalement, il n'y a pas vraiment d'examen complémentaire? D'ailleurs, est-ce qu'on fait des examens, peut-être pour rechercher d'autres causes, des causes médicales, peut-être, à cet état un peu psychiatrique?
Alors, on fait systématiquement une IRM cérébrale pour éliminer effectivement d'autres causes.
Parfois, une tumeur ou des choses comme ça peuvent être à l'origine de crises psychotiques ou pas?
Exactement. Ouais. Parfois, une tumeur peut donner, mimer vraiment presque exactement les symptômes de la schizophrénie ou d'ailleurs d'autres pathologies, des accidents vasculaires cérébraux, par exemple. Mais on fait toujours des examens pour éliminer d'autres causes.
Donc le diagnostic, il est clinique, vous le faites en examinant le patient avec son histoire, ce qu'il a pu faire, et puis une fois que c'est posé, c'est posé.
Exactement, le diagnostic, il est clinique. Actuellement, en tout cas, on ne peut pas encore céder d'examens comme l'imagerie pour faire le diagnostic de façon certaine.
Donc il y a cette imagerie donc, pour vérifier effectivement qu'il n'y a pas une autre cause. Et puis vous vous interrogez, j'imagine, les proches, parce que si la personne est en plein délire quand on vous l'amène pour un diagnostic, c'est souvent quoi? Les parents, les proches qui vous racontent quels ont été les symptômes, et c'est sur cette base-là que vous faites le diagnostic?
Oui, c'est vraiment un ensemble de facteurs. C'est-à-dire qu'on va voir comment est-ce que le patient est, et on s'appuie évidemment énormément sur la famille pour faire le diagnostic, parce que c'est eux souvent qui ont été les témoins du début de la maladie dans l'intimité de la famille.
Alors quand il y a eu justement cet épisode psychotique inaugural, on va dire, une grande crise de délire ou d'hallucination, qu'on vous l'amène, ce patient, tout de suite, c'est quoi? C'est hospitalisation en unité fermée, on n'a plus le droit de voir personne. Comment ça se passe, le tout début de cette maladie, quand on le prend en charge la première fois, le patient?
On essaye, en général, de proposer une hospitalisation pour pouvoir faire le diagnostic. Ça ne se fait pas systématiquement dans une unité protégée. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, on essaye d'associer la famille à la prise en charge. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. On contacte dès le début de l'hospitalisation la famille. On leur propose de faire un entretien avec nous et avec le patient. Et on essaye ensuite d'avancer et de proposer le traitement adéquat.
Comment se passe le diagnostic d'annonce, puisqu'il faut dire les choses, prononcer le mot schizophrénie? J'ai l'impression que c'est comme si on prononçait une condamnation à mort, surtout pour les proches, on a cette image terrible.
J'ai perdu mon enfant, j'attends d'avoir cette impression-là.
Exactement, c'est compliqué à annoncer.
Effectivement, ça peut être difficile et je pense que c'est aussi pour ça que c'est très important de pouvoir en parler à la radio, c'est que finalement les gens ont une représentation de la schizophrénie qui est celle un petit peu des croyances populaires, de la double personnalité.
Le tueur en série, hein, c'est
exactement,
un peu ça. Hein,
ouais. Du tueur en série. Et ça, c'est dramatique parce que finalement, quand nous, en tant que médecins, on annonce ce diagnostic, ça renvoie forcément à tout un type de croyances. Et donc, c'est pour ça qu'on prend vraiment notre temps pour le faire. D'abord, on le fait que quand on est vraiment... je dirais quasiment certain du diagnostic. Et on prend le temps aussi de déconstruire toutes ces croyances populaires.
Donc vous leur dites quoi concrètement?
On leur dit concrètement, on leur dit...
on sait que c'est un diagnostic. Votre enfant va avoir une vie normale, vous pouvez leur dire ça dès le début?
Ça, de toute façon, en général, on s'engage assez rarement sur ça. Mais on commence aussi parfois par leur dire, vous savez, c'est pas un dédoublement de personnalité. Ça veut pas dire que votre enfant est dangereux nécessairement. Et on fait preuve de pédagogie pour leur expliquer les symptômes, le traitement.
Ça doit être très dur quand même pour les parents d'apprendre ça, ce diagnostic-là.
C'est extrêmement difficile pour les parents, c'est aussi très dur pour les patients parce que souvent c'est une maladie qui est chronique, donc ça veut dire à un âge souvent jeune d'imaginer qu'on va devoir vivre toute sa vie avec une maladie.
Docteur Laïdi, on va faire une courte pause et on continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Sans rendez-vous revient dans un instant. Nous allons maintenant passer à la prise en charge de la schizophrénie, car même si c'est une maladie encore très stigmatisée, il est tout à fait possible de la mettre en quelque sorte en sommeil grâce à des médicaments et un accompagnement psychosocial qui est primordial. De nombreux patients arrivent à mener une vie quasi normale, à travailler, à avoir une famille. On va vous détailler tout ça.
Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, c'est vous, docteur Charles Laïdi. Vous êtes psychiatre au sein des hôpitaux universitaires Henri Mondor. Vous êtes également membre de la Fondation Fondamentale. Alors, à présent, on va passer au traitement, à la prise en charge de la schizophrénie. D'abord, justement, avant de parler de ces traitements et de cette prise en charge, est-ce que c'est une maladie qu'on peut guérir grâce au traitement dont on va parler juste après?
Alors, on ne parle pas de guérison dans la schizophrénie, mais en tout cas, on essaye de stabiliser les patients pour qu'ils aient le moins de symptômes possible et qu'ils puissent avoir la meilleure qualité de vie possible.
Donc, c'est-à-dire qu'on met la maladie en rémission, en sommeil, on peut dire ça ?
Exactement. On dit qu'on la stabilise, c'est-à-dire que les patients peuvent mener une vie normale, même s'ils peuvent quand même, dans certains cas, avoir certains symptômes qui persistent.
Ah oui, parfois on arrive à endormir certains symptômes, mais pas d'autres. Par exemple, qu'est-ce qui peut se passer ? On n'a plus de délire, mais...
Parfois, il peut y avoir, par exemple, des hallucinations auditives résiduelles chez certains patients, mais les patients, parfois aussi, arrivent à s'en accommoder, apprennent aussi à vivre avec et sont conscients que c'est des hallucinations qui font partie de leur maladie. Et donc, ça permet de rendre la vie, parfois, dans certains cas, plus facile pour eux.
Jimmy ?
La prise en charge passe par des médicaments, des traitements médicamenteux. On a tous en tête les antipsychotiques. Et qui dit antipsychotique dit médicament très puissant qui va endormir les gens, qui va les rendre comme des zombies. Quelle est la réalité ?
Alors, la réalité, c'est que nous, en tant que médecins, on essaye toujours d'utiliser la dose minimale efficace pour pas que les patients aient de sédation ou trop d'effets secondaires. Ce qui est vrai, par contre, c'est que les antipsychotiques, de manière générale...
C'est bien cette famille-là qu'on utilise pour la schizophrénie. Hein. Ce sont les antipsychotiques.
Tout à fait.
C'est le traitement de référence médicamenteux.
C'est le traitement de référence médicamenteux. Et on essaie toujours de trouver la dose minimale pour avoir le moins d'effets secondaires possible.
Mais vous en avez beaucoup, hein, je crois, à votre disposition. Il n'y a pas qu'une molécule qui permet de guérir ces patients, enfin de les mettre en rémission, on va dire. Donc, parfois, la première ne marche pas. Ou est-ce qu'à tous les coups, on met un antipsychotique et ça fonctionne ?
On a beaucoup d'antipsychotiques, effectivement, disponibles. Mais on n'a pas de moyen de prédire leur efficacité. Et donc finalement, comme on doit attendre à peu près environ 6 semaines pour savoir si un antipsychotique est efficace ou non, lorsqu'un traitement ne marche pas, on n'a pas d'autre choix que d'attendre et d'en essayer un autre. Et c'est pour ça que parfois, ça peut être assez long de trouver...
Il y en a qui résistent vraiment aux médicaments, chez qui ça ne marche pas, il faut en essayer vraiment de nombreux.
Effectivement, il y a des patients qui ne répondent pas au traitement, souvent d'ailleurs ceux qui arrivent vers les soins trop tard. Et dans ces cas-là, on est obligé d'utiliser séquentiellement des traitements jusqu'à ce qu'on trouve finalement le bon traitement qui permette d'aider les patients.
Jimmy ?
Et une fois qu'on a trouvé ce bon traitement avec la dose minimale efficace, certains, vous l'avez dit, arrivent à avoir une vie sociale normale, une vie de famille, travailler, avoir des amis et ne pas être exclu parce qu'un des risques de la schizophrénie, bah finalement, c'est d'être en dehors du monde social. Et donc, ça fait peur. Mais donc, vous avez des patients qui vont bien, en fait, avec le traitement ?
Bien sûr, bien sûr.
Vous en avez qui travaillent ?
On en a qui travaillent, on en a qui sont épanouis, qui ont une vie de famille. Il y avait toute une campagne de pub de la Fondation Fondamentale qui présente des patients qui souffrent de schizophrénie, qui se marient. Et vraiment, on peut être tout à fait heureux, même avec la schizophrénie, avoir une vie de famille.
Quel type de métier, vos patients, par exemple, qu'on ait une idée ? Ils travaillent vraiment, n'importe quel métier ?
On a des patients ingénieurs qui prennent des traitements, qui sont stabilisés, qui ont été hospitalisés une fois il y a 20 ans, pour qui on a trouvé le bon traitement et qui arrive tout à fait à travailler.
Ça, c'est très encourageant d'entendre ça, effectivement. Une première hospitalisation au départ, quand la maladie survient, et puis finalement, une fois le traitement trouvé, une vie normale. Quoi.
Exactement, et ils prennent leur traitement en général de façon régulière.
C'est tous les jours, ces médicaments-là ?
C'est tous les jours. Alors, il existe aussi des formes retard qui permettent d'avoir juste, par exemple, une injection tous les mois. Mais ce n'est pas rare de voir des patients stabilisés depuis plus de 10 ans, plus de 20 ans, qui ont des rendez-vous réguliers avec leur psychiatre, mais qui arrivent à mener une vie tout à fait normale.
C'est très encourageant ce qu'on entend. Jimmy, à vous.
Néanmoins, ça reste une pathologie chronique, comme l'hypertension ou le diabète. Et donc, les traitements, ils sont souvent à vie, avec parfois... des hauts et des bas, donc parfois on doit peut-être ajuster les traitements ?
Tout à fait, ça c'est sûr que c'est difficile de trouver le bon traitement et ça nécessite parfois de changer. On essaye en tout cas de s'adapter au mieux aux patients, à ses désirs, aux effets indésirables éventuellement qu'il peut ressentir.
Quels sont les effets indésirables de ces médicaments, les neuroleptiques par exemple ?
Alors, les neuroleptiques, ça peut d'abord entraîner une sédation, c'est-à-dire endormir un petit peu. Ça peut aussi provoquer une constipation.
C'est un effet secondaire fréquent ?
Qui est un effet secondaire qui est très fréquent et qui est souvent parfois très gênant, dont d'ailleurs souvent on ne parle pas beaucoup.
Jimmy en parle. Je crois que c'était votre sujet pendant vos
études.
La
complication grave de la constipation chez le patient psychiatrique.
Souvent, hein,
parce qu'on oublie de le dire, mais quand ils prennent des neuroleptiques, c'est comme s'ils prenaient de l'imodium ou du smecta à très forte dose.
Ça les constipe très
constamment. Et en plus, souvent, ils ne se plaignent pas trop de douleur, en fait. Donc parfois, il y a un retard diagnostic. Et donc, ils sont même parfois exclus de la prise en charge médicale parce qu'ils ont des complications, ils sont en surpoids parce qu'ils ont pris des traitements, ils marchent moins, ils font moins d'activité. Donc, ils font plus de pathologies cardiovasculaires, mais sans se plaindre. Et donc, l'enjeu, c'est de les rattraper, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a des vrais effets, mais au profit parfois d'une qualité de vie un peu acceptable.
Donc exactement. Et puis, il y a des choses qu'on peut faire contre la constipation. On peut donner, par exemple, des traitements laxatifs. On peut modifier l'alimentation aussi en conséquence pour éviter des formes graves de constipation.
Et donc, ces traitements, par exemple, chez une femme qui serait atteinte de schizophrénie, ça n'empêche pas une grossesse éventuelle dans le futur? Parce que vous avez dit, quand le diagnostic tombe chez une jeune femme, par exemple, j'en sais rien, de 18 ans, elle aura peut-être envie d'avoir un enfant un jour. Est-ce que ça voudra dire qu'elle va devoir arrêter ses médicaments? Elle peut les continuer? Comment ça se passe avec la grossesse?
Alors, la schizophrénie, déjà, ne contre-indique pas du tout le fait d'avoir des enfants. On peut maintenir certains traitements pendant la durée de la grossesse. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut, pendant cette période, un suivi qui est renforcé. Mais vraiment, en aucun cas, il y a beaucoup de neuroleptiques qu'on peut donner pendant la grossesse et qui ne sont pas associés à des malformations ou à un risque tératogène.
Jimmy.
La prise en charge, on a dit, ça passe par des traitements médicamenteux, mais aussi par une prise en charge psychosociale. En quoi ça consiste concrètement?
Alors, ça consiste vraiment à prendre le patient de façon globale, à l'aider. Par exemple, certains patients peuvent avoir des problèmes d'attention ou de concentration. Donc, on va faire ce qu'on appelle de la remédiation cognitive pour entraîner les fonctions de leur cerveau, les aider à se concentrer. On va aussi essayer de leur trouver, de les guider en tout cas vers une activité professionnelle qui soit adaptée à leurs besoins. On va enfin les informer sur la maladie, des symptômes. Et puis, on va faire aussi un gros travail avec la famille pour expliquer à la famille les signes avant-coureur de rechute, les symptômes, la maladie, le pronostic. Donc, c'est vraiment une prise en charge qui est globale. Et le traitement, je dirais que c'est vraiment un aspect seulement de la prise en charge de la schizophrénie.
C'est-à-dire que cette partie psychosociale de la prise en charge, elle est aussi importante que le fait de prendre ces médicaments tous les jours pour vous?
Tout à fait. Pour moi, elle est vraiment essentielle, et notamment aussi l'information du patient et de sa famille. Parce que finalement, si vous devez prendre un traitement tous les jours, mais qu'on ne vous explique pas vraiment pourquoi, il n'y a aucune raison de le prendre vraiment. Donc, l'éducation thérapeutique aussi, c'est un point qui est vraiment essentiel dans cette maladie.
Ce sont des patients qui, je sais pas, font de la psychothérapie aussi, de la thérapie par la parole. C'est important, ça, pour eux?
Bien sûr, ça peut être. On peut tout à fait leur proposer une thérapie de soutien ou une thérapie, par exemple, qui sont destinées à diminuer leur niveau d'anxiété, puisqu'on sait que dans la schizophrénie, le niveau d'anxiété, quand il est élevé, risque de favoriser la résurgence des symptômes. Et donc, on propose toute une gamme différente de psychothérapie, mais qui est là encore toujours adaptée à la situation de chaque patient.
J'avais même entendu parler de travaux sur l'activité physique pour les malades psychiatriques et notamment des schizophrènes. Plus on les fait bouger et parfois plus ils arrivent à baisser la dose de médicaments. Enfin, je crois que le fait d'être actif aussi physiquement, ça compte aussi beaucoup dans les maladies psychiatriques.
Bien sûr, ça c'est un point qui est essentiel. Alors déjà, l'activité physique régulière, elle permet de diminuer le niveau d'anxiété de façon générale. Ça permet aussi de ne pas prendre trop de poids. Et donc les thérapies qui utilisent le sport sont souvent très efficaces. Nous, d'ailleurs, dans notre unité d'hospitalisation, on a un éducateur sportif qui fait faire du vélo, des activités physiques adaptées aux patients.
Jimmy.
Je suis encore un jeune médecin, j'ai beaucoup de choses à apprendre, mais j'ai l'impression que dans la prise en charge de la schizophrénie, on stagne un peu, on est toujours autour des mêmes molécules, plus ou moins. Est-ce qu'il y a des enjeux de la recherche? Est-ce qu'on a des pistes qui pourraient être, je sais pas, dans le diagnostic ou dans le traitement de la maladie, plutôt encourageant?
Il y a des pistes, tout à fait. Récemment, il y a une nouvelle étude qui est parue dans le New England Journal of Medicine, qui est une des meilleures revues de médecine au monde, et qui propose un nouveau traitement qui n'est pas un antipsychotique, donc qui est donc une famille différente de ceux utilisés jusqu'ici, et qui pourrait être utile dans le traitement de la schizophrénie. Et puis, je dirais que la recherche en psychiatrie, c'est un domaine très riche, très vaste, très actif, et je pense qu'on a besoin de soutien pour continuer cette recherche, et qu'il y a évidemment dans cette recherche des espoirs thérapeutiques.
En préparant cette émission, on me dit qu'il y avait beaucoup d'enjeux de la recherche aussi dans cette maladie autour de l'imagerie cérébrale, c'est-à-dire pour chercher quoi, par exemple, pour améliorer quoi?
Alors, dans l'imagerie cérébrale, en fait, on cherche déjà à comprendre mieux cette maladie, puisqu'on a des pistes, mais en tout cas, aujourd'hui, pas vraiment de certitude. En utilisant des méthodes, par exemple, de machine learning, d'intelligence artificielle, on pourrait espérer un jour avoir une aide au diagnostic. Et puis, je vous parlais tout à l'heure des traitements pour lesquels on ne sait pas quel patient va répondre à quel traitement. L'enjeu aussi, ce serait que l'imagerie pourrait permettre d'aider à la prédiction de la réponse à tel ou tel traitement. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait nous faire gagner en pratique énormément de temps.
Et ça, il y a déjà des travaux en cours sur ce point-là, hein ?
Il y a beaucoup de travaux en cours, notamment qui sont menés en lien avec la Fondation Fondamentale au centre de Neurospin, et il y a beaucoup de chercheurs, d'ailleurs en France et dans le monde, qui travaillent sur ce sujet.
Et donc de l'espoir. Merci beaucoup, docteur Laïdi, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur cette maladie encore très stigmatisée qu'est la schizophrénie. Merci encore.
Merci à vous.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Nous nous intéresserons à un sujet un peu tabou, un autre, la fissure anale. Je ne sais pas, je ne vais pas vous faire un dessin, vous avez compris où ça se passe, mais comment se traite ce type de plaie qui est finalement assez fréquente. Nous ferons évidemment le point avec le docteur Jimmy Mohamed. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors, il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Aujourd'hui, focus sur un bobo tabou, mais très fréquent dans la population, la fissure anale. Savez-vous quelle est la cause de cette plaie, qui peut être très douloureuse? Comment la soigner? Justement, Benjamin Lévesque, pour qui aucun sujet santé n'est tabou, est venu vous interroger, oui, sur ce sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
Oula! J'en ai jamais eu.
Alors, une fissure, c'est souvent plafond ou dans un mur, mais une fissure... Ah, si, un os peut être fissuré.
On peut avoir une fissure... Ah, je pense qu'il peut y avoir plusieurs soucis particuliers.
Fissure anale, non, je ne connaissais pas.
Vu le nom, ça doit faire mal, c'est pas... On donne pas au nom de fissure un truc qui fait pas mal.
Des amis qui en ont déjà eu, apparemment ça fait très très mal. Au niveau de la peau, ça craque, ça fait comme une petite ouverture, comme quand on se blesse avec un couteau ou autre, ça fait une petite ouverture et c'est à vif et ça peut saigner et c'est pour ça que ça fait mal.
Du fait que la personne est constipée, elle force énormément. À force de forcer, bah, ça fait des déchirures, je pense. Il faut mettre des crèmes antibiotiques pour essayer de cicatriser et refermer cette fissure.
Oui, vaut mieux aller aux urgences parce qu'effectivement ça doit saigner. En tout cas, c'est pas le problème qui peut facilement se régler soi-même, étant donné qu'on l'a dans le dos.
Dans le dos, alors c'est pas exactement dans le dos. Justement, on va faire un petit point d'anatomie avec vous, Jimmy. Expliquez-nous ce qu'est vraiment une fissure anale. Rien qu'en le disant, on a quand même une petite idée de là où ça se trouve, c'est pas dans le dos. Hein.
Oui, mais malgré tout, on a l'impression que les gens ne savent pas vraiment ce que c'est. On comprend où est-ce que ça se passe. Fissure, alors c'est une plaie du canal anal entre la marge anale et le rectum. C'est plutôt fréquent, même si on n'en parle pas trop. C'est le deuxième motif de consultation proctologique après la maladie hémorroïdaire. Alors elle est plus fréquente chez l'adulte jeune qui a entre 35 et 40 ans. Quel que soit le sexe, et ça touche 15% des femmes après un accouchement. La fissure anale, elle est considérée comme aiguë si elle dure moins de 6 semaines, et ensuite elle est chronique lorsqu'elle est plus ancienne.
Alors, quels sont... c'est la fin de l'année, on a un petit peu... Non, ça n'a rien de drôle. De toute façon, c'est très fréquent. Donc, alors, quels sont les symptômes qui doivent faire penser qu'on a peut-être ce problème-là, Jimmy?
Alors, évidemment, c'est difficile de passer à côté de la fissure anale. Pardon, je suis désolé, vraiment, je m'excuse. C'est la fin de saison. Et donc, évidemment, c'est d'abord la douleur. Dans un premier temps, en fait, vous avez mal lors du passage des selles. Et puis ensuite, il y a une période où ça se calme un peu plus. Et puis, vous avez de nouveau mal lors du nouveau dépassage des selles. Et ça va entraîner parfois des saignements qui sont peu abondants, contrairement aux idées reçues.
Oui, les hémorroïdes, ça fait beaucoup saigner. Là, ça va, ça saigne pas beaucoup.
Et ensuite, ce suit une période de constipation réflexe, puisque vous appréhendez la douleur, et donc à ce moment-là, vous vous retenez, et c'est vraiment très douloureux.
Alors, ok pour les symptômes, Jimmy, c'est quoi les causes? Pourquoi tout? Alors, on a parlé un petit peu de l'accouchement, parce que les femmes qui ont eu un bébé et qui ont accouché par voie basse le savent, ça peut arriver. Mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça comme raison, parce qu'il y a des hommes qui ont des fissures anales.
Oui, exactement. Alors, la constipation, c'est un motif fréquent, en particulier chez les enfants qui vont se retenir et que du coup, on va passer un peu à côté. Attention, la fissure anale peut être révélateur d'une maladie de Crohn, donc il ne faut jamais négliger ça. Parfois, on peut avoir une fissure anale éventuellement après certaines pratiques sexuelles, et donc il faut faire attention, puisque à ce moment-là, il y a un risque de transmission, de maladie et d'infection sexuellement transmissible. Enfin, certaines fissures anales peuvent passer inaperçues et finalement révéler un cancer épidermoïde ou certaines une infection comme de l'herpès.
Bon, là, c'est bon, vous nous avez calmé, on a arrêté de fou rire, ça, on a vu que ça pouvait être très sérieux. Jimmy, qui on consulte si on pense avoir ça? Le généraliste, il sait gérer, il faut aller voir directement un spécialiste.
Alors, le médecin traitant peut faire tout à fait l'affaire, vous n'avez pas besoin d'aller aux urgences pour ça s'il n'y a pas de complications. Et puis derrière, s'il y a une doute sur la prise en charge, il vous oriente vers le spécialiste qui est le proctologue.
D'accord, et donc comment ça soigne? Parce que c'est quand même le plus important, parce que ça n'a pas l'air très agréable, donc effectivement, ça se traite.
Alors, tout dépend évidemment de la gravité de la fissure. Alors, dans un premier temps, on prescrit un régime particulier riche en fibres et avec une bonne hydratation. En fait, ça permet de régulariser le transit parce que si vous êtes constipé, eh bien à ce moment-là, vous allez avoir des douleurs. Donc, il faut prendre des laxatifs. Ça permet de limiter la pression lorsque vous allez aux toilettes. Et puis, parfois, on a recours à des crèmes anesthésiantes qui vont calmer la douleur, des crèmes cicatrisantes. Et puis, vous avez même des pommades, ce qu'on appelle des dérivés nitrés. Ça marche très, très bien. 30 à 80% de guérison avec ce traitement, même s'il est plutôt méconnu et sous-estimé.
Très bien. Et très rapidement, dans les cas les plus sérieux, on opère.
Hein. Traitement chirurgical, mais ça reste rare. Mais néanmoins, il faut une prise en charge. Et donc, on ne laisse pas traîner une fissure anale qui est douloureuse.
Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h. Et restez surtout, car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de Catherine Blanc.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints comme tous les jours par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour tous les deux.
Aujourd'hui Catherine, on va répondre, enfin vous allez répondre à la question de Marjorie qui a 19 ans. Elle nous a écrit la chose suivante. J'ai pris l'habitude de me masturber très régulièrement, jusqu'à 3 fois par jour. C'est devenu un besoin pour atténuer certaines angoisses, mais cela commence à m'inquiéter. Pourtant je suis en couple depuis 6 mois, mes rapports sexuels avec mon copain sont normaux. Alors comment expliquer Catherine qu'elle cherche comme ça 3 fois par jour à se masturber, enfin c'est pareil énorme alors qu'elle a un copain, enfin 3 fois par jour c'est beaucoup quand même.
C'est-à-dire qu'il faut faire le distinguo entre je me masturbe parce que je découvre mon corps ou je suis excitée ou j'ai envie de répondre et voir mon autonomie à me faire du bien. Ce qui, du coup, m'apaise.
Là, elle dit ça, c'est pour se calmer, hein, pour calmer ses angoisses.
Voilà, mais là, c'est plus que ça. Voilà. Là, c'est vraiment pour calmer ses angoisses. C'est-à-dire que, en fait, elle fait monter une pression et puis après, il y a une décharge qui est le plaisir et qui lui permet de se calmer de façon générale. Et comme elle l'a repéré, plus elle est angoissée, plus elle utilise la masturbation pour essayer d'avoir ce shoot
De l'après.
De l'après. Mmh. Et évidemment que du coup, ça sort du cadre de la sexualité, puisque sa sexualité, par ailleurs, va bien et sa relation va très bien. Mais ça pose moins la question de la sexualité à proprement parler que de son rapport à elle-même, à ses angoisses en général, et peut-être des angoisses liées au sujet de la sexualité, comme si elle avait peur que sa pulsion sexuelle soit envahissante, soit là, soit bouillonnante, et qu'il fallait la faire taire par le biais d'une masturbation répétitive.
Jimmy ?
Donc elle aurait deux sexualités, une sexualité, on va dire, normale ou normée, conventionnelle, et puis...
Relationnelle.
Voilà, ouais, relationnelle, et puis celle qui calme ses angoisses. Donc là, on est proche de l'addiction, en fait, finalement, et ça pose problème. Là, il faut peut-être consulter.
Bah, c'est sûr, parce que d'ailleurs, elle le dit elle-même, ça devient inconfortable, ça commence à l'inquiéter, c'est-à-dire que c'était pour calmer ses angoisses, et en fait, ça devient source d'inquiétude. Donc oui, il y a matière à réflexion.
Mais elle n'a que 19 ans, en plus, elle est toute jeune. Hein. C'est fréquent, ce genre de...
Bah, parce que vous avez d'abord la masturbation démarre aux alentours de 2 ans et demi, 3 ans. C'est plus ou moins freiné à l'âge de 6 ans, 6, 7 ans, au moment de l'âge de raison. Ça revient un peu à l'adolescence pour certains. Les femmes sont moins consommatrices ou en tout cas plus culpabilisées quand elles consomment donc,
de la masturbation.
De la masturbation. Ceci étant, les jeunes générations ont été éduquées à masturbez-vous pour être en maîtrise de vous-même, de votre corps, de votre jouissance, etc. La masturbation, qu'elle intervienne régulièrement dans notre vie, dans notre compréhension de nous-mêmes, dans notre appropriation de notre corps, c'est tout à fait normal.
Mais 3 fois par jour, ça commence à devenir...
Oui, à partir du moment où ça devient une obsession, c'est un rapport à la sexualité particulier ou une résurgence de souvenirs ou liés à la sexualité, de découverte de la sexualité ou de sa place de femme dans le monde ou dans le rapport aux autres, comme s'il y avait besoin vraiment... C'est comme la boulimie. Il y a le manger avec les autres et le plaisir du partage d'un repas. Et puis, il y a je mange toute seule la tête dans le frigo. Et ceci en douce, jusqu'au moment où ce qui était une gourmandise cachée et amusante devient une boulimie extrêmement anxiogène, stressante.
C'est du même ordre, en fait.
Exactement.
Jimmy ?
Alors que l'orgasme qu'elle peut avoir avec son partenaire ou qu'elle peut avoir en étant seule, finalement, c'est le même. Il ne sera pas plus intense si elle est toute seule ou si elle est avec son compagnon, ça ne change pas grand-chose. C'est le chemin pris qui diffère.
Ça peut être un orgasme différent dans le sens avec une montée plus nerveuse au niveau de l'excitation de la masturbation par rapport à une relation sexuelle selon comment elle fait l'amour, bien sûr, qui peut être plus profonde, lente, parce que dans un processus, on n'est pas dans l'urgence normalement dans la relation sexuelle avec l'autre. C'est-à-dire qu'on va passer d'une position à une autre, on s'embrasse, tout n'est pas fixé essentiellement sur un clitoris qui est excité, bousculé jusqu'à ce qu'il exulte. Alors que dans la masturbation, ça peut être le cas. Donc ça peut être un ressenti très différent, plus tendu nerveusement d'un côté et peut-être plus global, plus rond dans sa relation avec son homme. Ce que je ne veux pas dire, c'est que la masturbation ne serait pas bien, pas du tout ce que je veux dire, ou moins bien.
Qu'est-ce qu'on lui conseille alors ?
De toute façon, si elle est inquiète, je crois que le seul conseil à lui donner, c'est d'aller consulter quelqu'un qui l'aide à comprendre ce qui se joue, qui la rassure, pour qu'elle puisse avoir ou la liberté de ses masturbations trois fois par jour, ou la liberté de ne plus se masturber. La question n'est pas de se masturber ou pas, c'est juste garder la liberté et ne plus être dépendante de cette obligation.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils. C'est un vrai plaisir de vous écouter tous les jours. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain dans son rendez-vous. Votre émission Santé Bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Mais tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipe Sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Toujours pas de divorce en vue ?
Non, toujours pas, je vous rassure.
C'est dommage. Avec moi aujourd'hui, un grand avocat, Emmanuel Pierrat, avocat au barreau de Paris, qui publie La justice pour les nuls. Tout plein de conseils durant ces deux heures. Si vous divorcez ou si vous avez affaire à la justice de manière générale.
J'espère que vous n'allez pas me porter la poisse. Hein. Ça fait deux jours que vous me parlez de divorce.
Je vais finir par vous porter la poisse.
Tout va bien.
Posez-vous des
bien.
Questions.
Merci beaucoup. Je ne me pose aucune question. Tout va bien. Merci beaucoup, Mathieu. Et vous, surtout, restez sur Europe 1. Hein.